kein Froh. Ne couchez pas, on est la poussin. Nos coups sont faits pour vos couteaux. On est la poussin, notre viande est faite pour vos crocs. On est la poussin, faites saigner le pur goût.
Bonjour.
Oh, oh.
Bonjour.
Ouais, j'explique quoi.
Oui.
En gros, enfin en termes de.
J'explique quoi.
Et du coup.
Et en gros, il en fait pas trop.
Et du coup.
Quand tu prépares ton petit déjeuner.
Sur la parano, tu veux bien nous dire des trucs?
Moi j'ai rien à dire sur la parano.
En gros, il aligne des phrases pendant 110 pages.
Oui.
Pour
Oui, surtout qu'en plus les.
Oui.
Surtout qu'en plus. Et du coup.
Voilà, c'est.
On peut dire ça.
C'est pas drôle du tout.
On peut dire ça.
Et du coup, tout ces...
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... En gros, c'est pas drôle. Je sais pas quoi dire de plus, en fait.
Ouais, j'explique, quoi.
Voilà. En gros...
Très bien.
Du coup, je l'ai dit, pardon.
Ouh. Non, en fait, non, c'était pas... C'était pas on est là pour ça, c'était c'était un extrait
sans la parano.
Hein, quoi, répète. J'avais
très
pas
bien,
monté le son. C'était un extrait donc du CD qui accompagne on avait déjà parlé du fanzine Roche Voisine du numéro 2, on avait déjà passé un extrait et là
non,
c'est le le numéro 1 mais bon, c'était le deuxième numéro enfin. Bon.
Ah, il y a un numéro 0
et là, voilà, donc là c'est le numéro 2 qui est donc le troisième numéro et donc il y a plein de choses extraordinaires comme par exemple ça.
C'est trop beau.
C'est l'air triste.
C'est très bien aussi.
Je ne comprends rien par contre.
Hein, c'est, ouais, c'est de l'espagnol.
Ah bah ouais.
En plus d'espagnol par Ben.
Ouais. Non, c'est
si,
pas
si,
moi.
Si, t'as un super accent.
Je fais aussi l'accent anglais. Si vous voulez, pour mes fans, je fais aussi l'accent anglais. Dans le...
Attends, mais je t'entends pas bien, c'est bizarre. Attends.
C'est parce que tu fais n'importe quoi.
Oui, je fais n'importe quoi avec le studio.
Certainement.
Donc, Roche Voisine, c'est quoi?
Ouais, en fait, c'est spécial copinage, c'est quand même spécial copinage parce que c'est un fanzine qu'on fait Ben et moi avec nos copains de notre quartier. Et,
de la rue de la Roche.
De la rue de la Roche, voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Roche Voisine. Et, et donc, bah voilà, c'est tout, tous nos copains de la rue qui font des trucs. Alors, il y en a qui font des dessins ou des photos, d'autres qui font du son, d'autres qui font les deux et, Ben s'occupe de la partie son et moi de la partie papier. Voilà, j'espère que
c'est bien. Et ça coûte pas cher et ça se trouve où?
Pour l'instant, nulle part.
Bah, d'accord. C'est bien ça, on avait dit qu'on parlait de on est là pour ça, des choses de diffuser, mais qu'on
trouve. Si, vous pouvez trouver chez moi, mais il faut écrire à on est là pour K,
@free.fr. Il y en aura même pas au feu rouge?
Si, je vais en mettre au feu rouge. Ok, à la Fanzinothèque, ouais, c'est prévu.
Bon, alors,
voilà, au feu rouge à la Fanzinothèque d'ici 2 mois.
Et si on sonne à toutes les maisons de la rue de la Roche en demandant Roche Voisine, ça marche?
Moyen. Il y a peut-être moyen. Voilà, non, je sais pas trop quoi dire d'autre de plus.
Si, il y a des bandes dessinées dans
des bandes dessinées très rigolotes.
Des photos, des musiques complètement incroyables.
Ouais.
Alors, faut quand même dire que le CD pour cette édition est un hommage international.
Ouais, voilà, il y a il y a de l'espagnol. Du slovaque,
du coréen, de l'anglais et du français.
De l'anglais et du français.
C'est carrément merveilleux.
Hein, et du muet aussi.
Ouais. C'est une manière de dire que ouais, même dans notre tribu, on dit des choses qui sont universelles.
Ouais, du local au global.
Voilà, du global.
Du local. Du local. Et je vois le genre, ouais.
Ouais, exactement.
Alter, quoi.
Ouais.
Ouais, c'était on est là pour ça. On s'est même pas présenté.
on est là pour ça.
Je suis tous forts.
Oh là là, mais Isabelle, t'as. Attends.
T'as un problème?
Non, rien du tout. Donc c'est On est là pour ça, numéro oula, 27, avec ce soir Isabelle, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Ben, bonsoir.
J'ai rien à dire sur la parano.
T'es sûr?
Non. Pourquoi, c'est un complot?
Hein?
Vous voulez absolument me faire dire quelque chose?
C'était des trucs... Ça, c'était un truc que j'ai récupéré dans une... En fait, c'était avant une émission, on avait enregistré un petit peu et tout, et c'était n'importe quoi, et voilà.
Bah, j'en étais sûr.
Hein?
C'est un truc à l'insu de mon plein gré.
Voilà, c'était complètement à l'insu de ton plein gré, exactement.
C'est quelque chose de pas public que t'as décidé de rendre public.
Voilà, exactement.
Très bien. Non, je t'en remercie.
J'adore cette flûte traversière derrière, c'est trop bien.
Donc
c'est un morceau extrait de... C'était un morceau extrait de... Oui, pardon, ah oui. Vous êtes toujours sur On est là pour ça, sur Radio Pulsar. C'était un extrait de la bande originale de La vie aquatique de Wes Anderson.
Super film. Edwin Murray.
Très bien. Alors moi, je voulais vous parler d'un court roman qui s'appelle La Séquestrée, d'une femme qui s'appelle Charlotte Perkins Gilman, pardon, qui est américaine, et c'est un roman de 1891. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment elle était connue à l'époque et est reconnue comme une des premières féministes. Elle a fait pas mal de conférences sur le sujet, elle a écrit pas mal d'articles sur la condition des femmes à l'époque. Et là, voilà, c'est un court roman autour d'une femme qui est en train de vivre quelque chose qu'on appellerait, je pense, aujourd'hui une dépression. Suite, alors on ne sait pas directement si c'est la cause, mais en tout cas, elle vient juste d'accoucher. Et son mari, qui est médecin, ne reconnaît pas forcément le fait qu'elle puisse être malade et ne pas aller bien. Et comme solution, il trouve de louer une petite maison et de l'enfermer dans une chambre. Et en lui recommandant de ne pas trop s'agiter, de ne pas trop travailler et surtout de ne pas écrire. Parce que c'est une femme qui commence à écrire. Je pense que c'est un récit qui est assez autobiographique aussi, que c'était pas très bien vu de confier par l'écriture ce qu'on pouvait vivre. Et donc, voilà, sa cure à lui, ça consiste à la... Voilà, à la cloîtrer dans une chambre et à ce qu'elle ne rencontre personne, à ce qu'elle ne fasse pas grand-chose et en attendant... Est-ce qu'elle ne s'exprime pas en attendant que ça aille mieux, pensant que ça pouvait être une solution, ce qui était une idée apparemment assez répandue à l'époque. Donc voilà, de temps en temps, comme ça, elle essaie un peu d'écrire, mais tout en se cachant, parce qu'elle sait que ça va pas être bien vu par son... Marie, et du coup elle se retrouve dans cette chambre, et en gros sa seule façon de s'échapper, c'est d'observer le papier peint et d'essayer d'y voir des histoires et de permettre à son imagination de continuer à fonctionner, en fait. Comme elle peut pas forcément écrire, au moins il peut pas la priver de penser, et donc elle se met comme ça à délirer, parce que c'est vraiment le mot sur ce papier peint. D'ailleurs le texte original en anglais s'appelle The Yellow Wallpaper, donc le papier peint jaune. Et donc dans ce papier peint jaune, elle commence à y voir des figures, et notamment des figures de femmes, soit des femmes qui se cachent, soit des femmes qui sont prises derrière des barreaux, donc qui reflètent pas mal sa situation. Et ce qui est assez beau dans le texte, c'est que... Enfin, ça peut avoir des aspects un peu de roman fantastique, quoi, parce qu'à un moment, ça part vraiment dans cet univers qu'elle se crée à travers ce papier peint. On ne sait plus trop si c'est juste une espèce de truc rêvé ou de cauchemar, ou si c'est vraiment ce qu'elle est en train de vivre, comment elle s'identifie ou pas à ces femmes qu'elle aperçoit dans le papier peint, et y compris la fin, qui reste un truc assez mystérieux, où on ne sait plus trop de qui elle est en train de parler. Est-ce qu'elle est en train de parler des femmes qu'elle voit dans ce papier, ou est-ce qu'elle est en train de parler d'elle ? Ça reste assez bizarre, mais c'est vraiment, voilà, c'est très court, mais c'est, je sais pas, ça raconte vraiment quelque chose de, je pense, de l'époque, notamment sur la difficulté des femmes à être autre chose que des épouses et des mères, et notamment à être dans des activités comme ça de création. Ça m'a fait penser à un autre livre qui a été écrit un peu plus tard, de Virginia Woolf, qui s'appelle Une chambre à soi, où là, elle défend l'idée d'avoir une chambre, mais pour justement être un peu à part du monde et pouvoir créer, ce qui n'est pas tout à fait la même situation ici, et où ça lui permet aussi d'ailleurs d'évoquer d'autres femmes comme ça, écrivains, qui ont eu beaucoup de difficultés par rapport à leur entourage, à dire « moi, c'est ça que j'ai envie de faire, d'écrire ». Et voilà, je veux que vous me laissiez tranquille pour faire ça et pas forcément une vie que je ne veux pas, quoi. Donc c'est assez intéressant dans le roman, donc, qui est publié chez Phébus, La Séquestrée, c'est qu'il est présenté par, comment s'appelle-t-elle, Diane de Margerie, voilà, qui remet ça un peu dans le contexte, qui la compare aussi à d'autres femmes de l'époque, notamment à la sœur d'Henry James, qui aurait bien aimé écrire, mais voilà, il y avait déjà son frère qui écrivait, alors bon,
pas de chance.
Pas de chance. Elle parle aussi un peu d'Edith Wharton, une autre écrivain américaine. Et ouais, c'est Ouais, c'est vraiment bien parce que c'est assez subtil et voilà, c'est à la fois une histoire, je sais pas comment dire, un truc réaliste, enfin qui s'appuie sur une vraie situation de l'époque, d'une difficulté des femmes à être dans des activités de création, et en même temps voilà, ça part complètement ailleurs par son imagination. Je vais en lire un petit extrait. Je reste étendue sur ce grand lit inamovible. Je crois qu'il est fixé au sol par des clous. Et heure après heure, je fais le tour du motif sur le mur. C'est un véritable exploit, je vous assure. Je commence, disons, par le bas, là, dans le coin encore intact, et je décide pour la millième fois que je suivrai ce motif démentiel jusqu'au bout pour parvenir à une sorte de conclusion. Je connais quelque peu les principes du dessin, et je vois bien que ce motif ne repose sur aucune loi de circularité, d'alternance, de répétition ou de symétrie, ni sur aucun système connu. Il ne sait que se répéter sur chaque lait. Vu d'un certain angle, chaque lait est indépendant. Les courbes floues et les arabesques d'une sorte de dessin romantique décadent, atteint de délirium très mince, se fondent de haut en bas, de bas en haut, en colonnes d'une agressivité solitaire. Sous un autre angle, elles se rencontrent en diagonale et leurs contours se perdent en grandes vagues étendues, penchées, vision d'horreur, comme des algues enchevêtrées en pleine poursuite. Tout ce chaos s'étale aussi à l'horizontale, du moins me semble-t-il, et je m'épuise à essayer de distinguer le schéma qui préside à son mouvement. Ils se sont servis d'un de ces motifs comme frise, ce qui ajoute à l'aspect chaotique de l'ensemble. Au fond de la chambre, le papier peint est à peu près intact, et quand se calment les lumières obliques, que le soleil couchant l'éclaire directement, je peux très bien imaginer après tout qu'il irradie et que ces arabesques multiples vont se ramifier autour d'un centre commun pour se précipiter tête la première dans une folie partagée. Suivre ce motif m'épuise. Je vais me reposer un peu. Je ne sais pas pourquoi je dois écrire tout ceci. Je n'en ai aucune envie, je n'en suis pas capable. Je sais que John trouverait tout cela absurde. Pourtant, je dois m'exprimer d'une façon ou d'une autre, je dois réfléchir, c'est un tel soulagement. Mais l'effort est en train de dépasser le sentiment de délivrance. La moitié du temps, je suis d'une paresse affreuse, je reste étendue très longtemps. John dit que je ne dois pas perdre mes forces, il me fait prendre de l'huile de foie de morue et plusieurs remontants, sans parler de la bière, du vin et des viandes de choix. Cher John, il m'aime tant et déteste me voir malade. J'ai essayé l'autre jour d'avoir avec lui une vraie conversation, sincère et raisonnable, pour lui dire combien j'aimerais qu'il me laisse partir voir son cousin Henri et Julia. Mais il m'a expliqué que j'étais incapable de faire le voyage, qu'une fois arrivé je serais incapable de supporter le séjour là-bas. Je n'ai fait qu'aggraver mon cas, car j'étais en pleurs avant même d'avoir fini. Cela devient très difficile pour moi de penser avec lucidité, à cause de cette fragilité nerveuse sans doute. Alors le cher John m'a prise dans ses bras, il m'a tout simplement portée en haut et couchée sur le lit, il s'est assis à côté de moi et m'a fait la lecture jusqu'à ce que ma tête éclate. Il m'a dit que j'étais sa chérie, son réconfort, tout ce qu'il possédait, qu'il fallait que je prenne soin de moi, ne serait-ce que pour lui, et ne plus tomber malade. Il dit que je suis seule à pouvoir m'en sortir, qu'il me faut user de volonté, me dominer et ne pas me laisser entraîner dans des rêvasseries chimériques. Une seule chose me console, le bébé va mieux, il est heureux et n'est pas obligé d'occuper cette chambre d'enfant avec son atroce papier peint. Voilà.
Sympa.
Oui, assez sympa. Alors après ce petit rebond qui évoque, mais de façon quand même assez, marginale, enfin voilà, c'est un élément qui arrive, là, l'histoire de la maternité, mais qui n'est pas du tout prédominant. Alors apparemment dans sa vie, ça a été quand même quelque chose d'un peu plus important, et en effet, le fait d'avoir eu un enfant, ça a pas mal bouleversé son équilibre, mais dans le roman, c'est pas du tout central. Mais voilà, ça nous permettait d'évoquer et de passer un extrait d'un documentaire sonore qui s'appelle Odile.
Et qu'on va écouter tout de suite.
Thank you. tämänne numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero. Numret ni har valt är inte i bruk. Var god och kontrollera numret. The dialed number is unknown.
Il ne s'est rien passé.
Please check the number.
Pas de loup. Quand je me suis retournée, elle n'était plus là. Ma mère a disparu. Il y avait toujours le vieux piano dans le hall de l'entrée. Sur le plafond de ma chambre, il n'y avait plus que les traces des phares des voitures. Le monde au dehors s'agitait. Il n'y avait plus rien au-dedans. D'ailleurs, c'était fermé. Quand elle est revenue, au 42 de la rue Calvé.
Tu te souviens de ma réaction?
Non, pas tellement. Parce que tu t'en étais pas tellement bien rendu compte. On a dû te dire, oui, maman n'est pas là. Tu as dû te rendre compte qu'elle n'était pas chez toi. Mais c'est surtout ton père qui a dû t'en parler. Avec nous, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'il t'en a parlé? Est-ce qu'il t'a dit « Maman est partie, elle va revenir, maman est partie pour toujours, maman a fait ses flammes ?» J'en sais rien.
Je t'ai jamais questionné.
Pour ça, non. Quand tu étais petite, non. Non. Non.
Reviens.
Ça t'avait pas changé tellement ta
Reviens.
Vie.
Reviens.
Odile. Par Jenny Saastamoinen.
Il me dit, mamie, on va aller contre les étoiles. Il faisait noir. Alors on est sortis, je crois que je t'ai pris dans mes bras. Oui, il te semblait que tu étais plus près des étoiles, sans doute. Et puis c'est là, au bout d'un moment, on les regardait, celle-là, celle-là, celle-là. Il me dit, je me fais des souvenirs. Cette phrase, elle était... C'était bizarre. Rien que le mot souvenir dans la bouche d'un enfant, à ça alors, se fait des souvenirs. Comme si tu savais déjà que quand on vieillit, on a des souvenirs.
Qui est-elle, celle que je n'ai pas connue?
Qui je suis?
Qui je suis?
Qui je suis? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne vois pas ce que je peux te dire. Qui je suis?
Je lui dis que sa vie m'intéresse. Elle est mal à l'aise. J'ai l'impression de ne pas la connaître.
Elle me paraît tellement insipide, sans intérêt, que j'ai pas très envie de la raconter, cette vie.
Il y a des trous béants dans notre histoire. Elle rit.
Et oui.
Bien sûr, ça t'intéresse. Mais tu sais, si tu veux, moi, sa vie, je peux te la raconter. Ça serait vite raconté, hein.
C'est pas concerné dans ma vie de tous les jours, la vie que j'ai vécue, si tu veux. Mais je l'ai vécue sans toi.
Elle dit qu'une fois, elle m'avait oublié dans mon landau, à l'entrée d'un magasin. Elle était rentrée à pied, les bras chargés. Elle s'est aperçue, en cherchant ses clés, qu'il lui manquait quelque chose.
J'ai mis très longtemps à me dire « je suis mère » quand j'ai accouché. J'avais un bébé que j'aimais, que c'est moi qui l'avais fait, j'en revenais pas, mais j'arrivais pas tellement à me dire je suis sa mère. Et je me demande si je me suis sentie mère un jour.
Voilà, donc c'est le début d'Odile, qui est un documentaire sonore donc de Jenny Saastamoinen, qu'elle a fait dans le cadre du master de création documentaire. C'était sa réalisation de première année et qui donc est programmée dans un programme du Dietrich de samedi qui est consacré à la question justement de la maternité. Il y aura à la fois ce doc sonore, un film documentaire qui s'appelle Sonia et sa famille, puis Regarde, elle a les yeux grands ouverts, et enfin L'embarras du choix. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que enfin, je pense qu'à travers tous ces documentaires, ça pose vraiment la question, bah oui, enfin, qu'est-ce que c'est la maternité, l'instinct maternel, est-ce que ça existe ou pas, et différentes situations, là, enfin, Dans son cas, c'est très particulier. C'est donc sa mère qui est partie alors qu'elle était très petite et qu'elle retrouve bien des années plus tard. C'est vraiment un très beau documentaire, enfin, où elle arrive à mêler la voix de sa mère, ses propres questions, la voix de sa grand-mère. Sa grand-mère est assez présente au début. Et tout d'un coup, elle disparaît du doc. Et moi, j'ai trouvé ça assez, assez violent ce moment-là, parce qu'on sent en même temps que la grand-mère, ça a pu être aussi un moment, un obstacle entre vraiment la rencontre entre cette fille et sa mère. En fait, sa mère, elle est partie un peu voilà, en voyage sur la route. Elle lui dit tu vois un peu, sans toi ni loi. Ben voilà, c'était un peu moi. Elle a fait un peu le tour de différents pays d'Europe. Elle a pas mal galéré. Elle a été rejetée par sa famille, je pense, du fait même aussi qu'elle a eu une enfant très tôt. Et le retour a été assez difficile. Et on comprend plus ou moins que, ouais, vraisemblablement, les parents de cette femme n'ont pas favorisé la rencontre entre elle et sa fille, quoi. Mais voilà, c'est très très, je sais pas comment dire, très subtil, très beau aussi sur voilà cette rencontre qui essaie une nouvelle fois d'avoir lieu par aussi le biais de la création de ce documentaire, et on sent voilà que c'est très difficile quoi. Enfin, il y a des paroles assez dures. Enfin, à un moment, la jeune dit à sa mère qu'elle l'aime, mais enfin. Elle a du mal à dire qu'elle l'aime comme une fille peut aimer sa mère. Enfin, si tant est qu'il y ait une façon pour une fille d'aimer sa mère, enfin une façon unique, mais elle dit voilà, je t'aime comme j'aime une autre personne, enfin, ou les gens en général, mais il n'y a pas ce lien très particulier puisqu'elle n'a pas été là quand elle était petite, quoi. Et en même temps, elle ne l'accable pas, elle ne la juge pas, et la mère, elle essaie pas non plus forcément de se faire pardonner, quoi. Elle dit bah voilà, moi. J'ai vécu ça, j'en suis pas très fière et j'ai pas été avec toi, mais voilà, ça a été ça ma vie, quoi. Et c'est vraiment, ouais, très, très, très bien.
Est-ce que tu peux me parler du film des années 80, là, Regarde les yeux grands ouverts, est-ce que tu l'as vu ?
J'aimerais bien t'en parler, Thomas, mais je ne l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu ?
Donc, je sais juste que c'est au sein d'un groupe à l'époque du MLAC, qui était un groupe militant pour l'avortement et la contraception, et qui, dans ce film, évoque aussi des autres pratiques pour accoucher, je pense, en dehors. Voilà, de pratiques hospitalières, mais qui voulaient développer ce qui se refait d'ailleurs aujourd'hui, des accouchements plutôt à domicile, pas forcément trop médicalisés. Voilà. Mais non, j'en sais pas plus. Et juste à l'occasion, même si c'est pas samedi, donc samedi, ce programme, c'est entre 16h30 et 21h au cinéma Le Dietrich à Poitiers. Et vendredi soir, il y a un autre film qui a un très beau titre, je trouve, qui s'appelle Nous sommes nombreuses, qui lui est donc un film sénégalais. Ben, je sais pas si tu l'as vu toi. Oui, tu peux le dire si tu veux.
En fait, c'est un film d'un réalisateur sénégalais qui s'appelle, peut-être que des gens connaissent, qui s'appelle Moussa Touré, en fait, qui était éclairagiste notamment sur avec pas mal de gens, parce qu'il a tourné avec il était éclairagiste pour Giraudot quand il a fait pour Giraudot pour ses films
Les
en Afrique, Les Caprices d'un fleuve, voilà. Et deux, trois autres gens, et notamment il a beaucoup travaillé avec, un peu pas mal travaillé avec Sam Ben Ousmane aussi, et deux, trois autres compatriotes sénégalais dont j'ai oublié le nom. Et en fait, lui, il a commencé par faire des films un peu à gros budget, on va dire, avec notamment quelques-uns qui ont assez bien marché, même en Occident. Et en fait, il se rendait compte d'une seule chose, c'est surtout qu'en fait, la production qu'il avait, c'était des productions pratiquement uniquement occidentales, qu'il n'y avait pas du tout de possibilité de production africaine, et que du coup, il se retrouvait, lui, enfin, en tout cas, il s'est senti un peu le petit nègre des producteurs blancs. Donc, il a décidé de partir, entre guillemets, d'arrêter tout ce truc, alors qu'il avait une carrière bien tracée, qu'il commençait à être reconnu, etc. Et de s'acheter une caméra numérique et de se lancer à faire des documentaires autour de la situation africaine et ce qu'il voyait autour de lui. Enfin, pas qu'africaine d'ailleurs, mais c'est surtout tous ses films pour l'instant qu'il a fait. Donc il a fait plusieurs films, notamment un film qui s'appelle Poussière de ville, qui était à Brazzaville, non pas à Brazzaville, pardon, à Dakar, sur les jeunes, sur des jeunes, des enfants, des orphelins de la guerre, des guerres civiles qu'il y avait eu là-bas. qui était réfugié à Dakar. Il a fait plusieurs autres films, notamment 5x5, hein, sur la polygamie, où il va dans une cour, qui est très très drôle, un film assez marrant, sur un homme qui vit dans une cour immense avec 5 femmes, donc avec il y a 5 petites maisons, et l'homme se balade autour des 5 femmes, comme ça, avec donc il y a 50 gosses dans la cour, c'est absolument incroyable. Et donc il questionne, et c'est son pote, Moussa Touré, donc il lui dit, ça te fait pas, ça, tu sais combien t'as de femmes au moins? Ouais, 5 à peu près, et 2 gosses, je suis pas sûr sur les enfants, lui je sais plus, enfin bref. Et donc c'est, voilà, il a retourné à ça de façon drôlatique, et en même temps il y a des moments assez drôle sur avec les femmes qui disent que bah ouais, c'est pas toujours facile d'assurer avec 5 femmes, enfin des trucs assez marrants. Et en fait il a enchaîné un truc, donc ce il y a eu d'autres films, je vais pas faire toute sa filmographie, et il a fait ce film là qui s'appelle Nous sommes nombreux, sur les à Brazzaville au Congo, où en fait il a décidé d'aller voir des femmes violées après la guerre civile de 98 qui avait eu lieu au Congo. Un truc assez ultra trash, on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui était très très violent. Et donc il décide de faire le portrait, enfin d'aller voir, d'aller un peu étudier entre guillemets cette situation. Et il va tout seul avec sa petite caméra, donc alors techniquement c'est un peu l'arrache totale. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup il se retrouve en fait avec un film avec une relation incroyable, puisque c'est complètement tabou de parler de s'être fait violer par des militaires en temps de guerre. C'est limite si tu te fais pas rejeter par ton village, si t'es fait violer, ton quartier te hue. Et donc il décide de pousser un peu, d'essayer de le faire raconter ça par ces femmes, donc le début elle raconte leur scène de viol et comment ça s'est suivi, c'est absolument atroce. Et comment ces femmes essayent de se reconstruire ou pas, certaines y arrivent mieux que d'autres, et notamment on suit surtout un personnage qui s'appelle Lydie, avec lequel il y a une relation très très forte, et en fait cette femme-là avait déjà plusieurs enfants, et notamment ces derniers, elle a des jumeaux qui sont issus de son dernier viol. Et donc il l'interroge sur son rapport à ses enfants, comment on arrive à élever des enfants, et elle se bat tant bien que mal, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune aide, et c'est complètement impuni le viol au Congo. En fait, c'est la justice criminelle qui est chargée de faire ça, et la justice criminelle là-bas ne siège pas. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal criminel, mais il ne siège environ une fois par an, il ne traite pas les affaires de viol, donc c'est une impunité absolument totale. Et donc, il essaye de faire un peu un état des lieux de cette chose-là, et donc c'est souvent il y a des moments assez maladroits, techniquement c'est un peu l'arrache, c'est très maladroit aussi dans la façon dont il raconte, mais par contre c'est un super beau, c'est très très beau pour la relation qu'il a avec cette femme, notamment avec cette femme-là, qui essaye de se battre tant bien que mal pour faire survivre ses enfants issus d'un viol, donc imaginez bien le traumatisme et comment qu'elle a vécu et comment elle essaye de se reconstruire. Donc voilà un très beau femme qui peut se rapprocher d'une maternité finalement un peu tendue, mais il y a des choses qui se recoupent de façon évidente, et surtout c'est un très beau film en fait. C'est que techniquement on oublie un peu l'arrache totale et le son mixé avec une pelle pour se concentrer sur la relation qui existe entre lui et cette femme là, et c'est très très beau, et ces femmes là, et c'est très très beau.
Et voilà, nous sommes nombreuses, c'est quelque chose qui est expliqué dans le film, c'est une expression,
c'est un début comme ça en fait. Ils demandent de leur raconter en fait chacune donc le viol qu'elles ont vécu. Et il leur demande, notamment à une, je crois que c'est à Lydie, qui demande est-ce que tu en connais d'autres, des femmes qui ont été violées. Et elle répond vous savez, nous sommes nombreuses.
Voilà. Ah oui, parce que moi, en le lisant, je pensais que ça pouvait être le début d'un chant plutôt, tu vois, de revendication et tout ça, qui dit voilà, on existe, nous sommes nombreuses, et si on est ensemble, les choses peuvent. Non, mais je trouve ça intéressant sur.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Moussa Touré, il avait fait un autre film qui s'appelait Nos Altres, que moi j'aime beaucoup moins, mais enfin bon, bref. Et qui a été fait après, c'est son tout dernier. Et en fait, il y a un point commun très étonnant entre les deux, c'est qu'ils utilisent vraiment son film pour faire évoluer la situation de ses personnages. Par exemple, là, dans Nos Altres, en fait, c'est un film sur la communauté malienne dans une ville d'Espagne. Et en fait, le film est prétexte pour, à un moment, rassembler ces deux communautés, donc les autochtones, on dit, et la communauté malienne, les rassembler dans une pièce et leur faire dire, bon, allez-y, mettez-vous sur la gueule, et puis on en finisse, et puis voilà, voilà. Et là, en fait, il prétexte un peu le film, il emmène deux de ses femmes dans un centre d'aide juridique, qu'on peut voir d'une incompétence, c'est surtout d'une impossibilité de faire quoi que ce soit, Parce que porter plainte contre X pour un crime qui n'est pas jugé, vous amène pas très loin. Et en fait, voilà, donc il enchaîne comme ça.
Et tu veux dire ça, c'est dans le film en fait, quand il c'est montré dans le film.
Oui, oui, carrément, ouais, vraiment, ouais, comme dans nos altresses.
Et donc il utilise le fait qu'il est en fait en train de faire quelque chose, un documentaire sur ces femmes pour.
Pour les amener en fait, voilà, pour essayer de les rassembler, de leur poser des questions. Il va voir aussi, donc il va voir des avocats, il les emmène ces deux femmes dans un centre d'aide juridique. Il se passe pas grand chose, mais bon, elles essayent. Tant bien que mal, il utilise un peu son. Il utilise quand même le fait qu'il fasse des films pour parler de sa situation, mais aussi essayer lui-même de la faire avancer est-ce que la caméra peut pas aider à un moment le fait de faire un film peut pas aider justement à des rencontres, à des choses comme ça qui peuvent se passer. Et lui, il s'en sert assez parce qu'il est très. Je pense que c'est quelqu'un très impliqué, très militant et qui s'interroge beaucoup sur ce qui se passe.
On peut donner les horaires
Vendredi, ça passe à... Pardon, vendredi, donc nous sommes nombreuses, ça doit passer à... où suis-je? 18h30, voilà, ouais. Et c'est la dernière fois en fait, c'est passé une fois mardi, ouais. Et ça repasse vendredi, 18h30, au Dietrich.
Je vous conseille d'aller le voir, c'est un film très très dur quand même, faut le dire, mais... c'est très important d'aller le voir, je pense.
Passe un petit coup de musique qui a un rapport avec l'embarras du choix, donc qui passe samedi.
On peut peut-être en dire deux mots de l'embarras du choix.
On passe la musique d'abord.
Okay. On passe la musique d'abord.
L'enfant que j'étais me tourmente, elle est gentille, elle est charmante, mais je la trouve trop présente. Elle me traite sans égard, elle m'obsède, elle m'égare et transparaît dans mes regards. L'enfant que j'étais est méchante, piégeois dans mon cœur, elle se plante, elle réclame, elle est violente. Comment pourras-tu l'apaiser? Toujours elle se sent lésée et veut bien plus que des baisers. Elle veut être plus qu'une amante et l'idée de la mort la hante. Je voudrais pouvoir l'endormir ou peut-être la faire sourire, exaucer un de ses désirs. Cet enfant trop souvent se plaint, qui donc la prendra par la main et lui parlera de demain. Je ne puis m'en débarrasser, car elle attend jamais lassée, obstinément les yeux baissés. Cet enfant vivrait au soleil, rêverait au bruit des abeilles, les doigts égrenant des groseilles. Elle n'aime que le bruit de l'eau, le goût de l'amour sur sa peau. Elle ne reçoit que les cadeaux. Cet enfant est vraiment démente, elle se plaint et se lamente. Souvent je hais cette mendiante. Elle ignore le parfum des fleurs, ne reconnaît plus les couleurs, confond le rire avec les pleurs. Oh douce enfant, laisse-moi vivre.
Plom plom plom, talala, vous êtes sur Radio Pulsar, on est là pour ça.
Il y a personne qui fait du jingle.
Je suis
complètement apathique.
C'était l'enfant que j'étais par Jeanne Moreau.
Ouais, c'est ça, copain.
Mais quel rapport avec l'embarras du choix? Moi, je ne me rappelle plus du tout.
Ben en fait, alors il faut dire que l'embarras du choix a été réalisé par Isabelle ici présente et que
Isabelle Cavenot. Nous avons donc la réalisatrice dans cette émission.
Voilà, c'est super. On n'a même pas besoin d'inviter des gens.
Ils sont en équipe.
C'est ultra copinage encore.
C'est l'émission spéciale des copains.
Il se trouve qu'Isabelle chante cette chanson dans l'embarras du choix. Elle le fredonne.
C'est un grand mot.
Bah,
on est quand même dans une émission qui a une vocation culturelle. Est-ce qu'on peut dire que Isa chante cette chanson?
J'essaie de chanter.
Bon, d'accord.
D'accord.
Mais sinon, c'est pas un documentaire sur Jeanne Moreau, l'embarras du choix.
Ah non.
Non, pas du tout.
Non. Est-ce que c'est un documentaire sur toi? Ah la vache.
Je sais pas.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On va pas lui poser tout de suite des questions, on va lui présenter d'abord ce que
non, c'est. Non, alors L'embarras du choix, c'est un film donc, qu'elle a réalisé donc, dans le cadre du Master Créadoc, dont on parlait tout à l'heure à propos d'Odile, et qui est un film. Alors je crois qu'il y a 5 femmes donc, qui sont. Que tu rencontres pendant le film et donc que tu interviews, je sais pas, ouais, j'ai du mal
parce
à dire.
Parce que c'est 5 nullipares ouais. En fait, c'est un film sur les nullipares.
Voilà, bon, c'est un film sur le fait de ne jamais avoir eu d'enfant qui est barbarement appelé en médecine, si on veut, être nullipare. Voilà.
Donc un terme exclusivement réservé aux femmes.
Voilà. Oui. Donc quand on n'a pas eu d'enfant, il faut le dire, quand dans les dossiers médicaux, on dit qu'on est nullipare.
Voilà, parce que ça veut dire qui n'a pas accouché en fait, qui n'a jamais accouché.
Voilà. Et donc Isabelle a choisi de rencontrer 5 femmes qui n'ont jamais accouché et qui a priori ont peu de chances d'accoucher dans le futur.
Oui, parce qu'en fait je les ai choisies entre 45 et 58 ans je crois. Et voilà, pour prendre des femmes pour qui la question était d'une certaine façon résolue. Voilà.
Et tu leur as quand même posé la question. Pourquoi?
En fait, ce qui m'intéressait plus que pourquoi, c'était comment. Enfin, comment on raconte cette histoire-là du fait de ne pas avoir d'enfant. Le pourquoi apparaît au fil des récits qu'elles font. Mais ouais, moi, ce qui m'intéressait plus, c'est de voir comment on raconte quelque chose qui n'a pas eu lieu. Quels événements on relie à un autre qui n'a pas existé.
Parce que tu disais parler d'un non-événement.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est 5 cas particuliers, enfin 5 personnes qui ont vécu des choses complètement différentes.
Oui.
En fait,
après,
c'est
pas. Il y a des. Oui, oui.
Et effectivement, on dit souvent qu'il y a des milliers de façons de vivre la maternité, mais la non-maternité aussi,
Oui. Après, il y a des choses qui se recoupent sur leur histoire ou l'histoire familiale, le fait qu'elles appartiennent à une même époque aussi. Mmh. Du coup, c'est aussi la première génération, certainement, qui a pu faire ce choix-là, en tout cas par rapport à leur mère, et ça c'est quelque chose qui revient souvent, l'image de leur mère, l'image qu'elles avaient de la maternité à travers leur mère, c'était une maternité pas choisie, dans plusieurs des cas, et ça c'est un peu un hasard, c'était aussi des familles un peu pauvres,
nombreuses,
et voilà, l'envie un peu d'échapper à ça, et on voit aussi que leur choix, entre guillemets, parce que voilà, elles-mêmes contestent ce mot de choix, enfin disent voilà, entre choix, hasard, c'est un peu compliqué à démêler, mais en tout cas, elles disent que ce fait-là, il n'est pas non plus isolé d'autres choix de vie qu'elles ont pu faire. Souvent, c'est lié aussi à d'autres événements et une autre façon de vivre et de vivre, en tout cas par rapport à leur mère.
Parce que même si elles sont toutes issues du même, pratiquement au même moment, oui. C'est quand même pas. On va dire même génération. Le rapport à l'histoire qu'elles entretiennent n'est pas du tout pour les mêmes raisons qu'elles ont choisi ou pas d'ailleurs. Enfin, mais et du coup, ça c'est marrant parce qu'il y en a que c'est plutôt par rapport à ce qui s'est passé avant, est-ce que ce qu'ils ressentaient. Enfin, il y a l'expression de la guerre et etc. qui revient. Il y a ce qui est en train de se passer socialement, l'émancipation. Après, il y a première façon de pouvoir aller faire des études pour les classes pauvres, entre guillemets. Il y a l'économique, le politique, l'histoire, le passé qui rentre, la volonté d'avoir un futur différent. Enfin, tout ça, ça entrecroise, alors que c'est une seule et même génération, et c'est aussi bien de considérer qu'il n'y avait pas une espèce de revendication globale, générationnelle, qui disait quoi que ce soit. Ouh là là, ouais, les femmes, émancipation des femmes, enfin, tu vois, c'est tellement généralisant et quoi que ce soit que c'est peut-être pas très intéressant, alors que là, du coup, on peut avoir suffisamment diverses approches pour saisir ce que ça pouvait dire à l'époque, quoi. Et ce que ça représente encore maintenant.
Et l'importance que ça. C'est vrai qu'il y a quelques cas particuliers. Je pense, j'ai oublié son prénom, celle qui monte sa petite boîte en cœur.
Carole.
Carole, qui c'est des moments assez forts dans le film. Elle se monte la boîte et sa collection de stérilets. C'est vraiment. Quand on la voit, elle, on pense un petit peu au côté militant. Puis par ailleurs, elle l'est, mais et en même temps, elle dit bah oui, moi je montre ça à mes petites nièces. Ça les intéresse beaucoup. Et puis. Donc, il y a ce côté-là un petit peu militant, et puis il y a aussi les histoires de hasard ou de la vie personnelle. pareil, j'ai oublié les prénoms de quasiment chacune, mais qui disent bon, c'est pas tombé au bon moment, et puis après voilà. Et puis,
oui.
Mais j'aime bien aussi la façon dont. Enfin, j'espère qu'il y aura encore une discussion après la projection du film.
Oui.
Henri. Parce que c'est toujours très étonnant de voir, moi qui ai vu le film plusieurs fois avec différents publics, les réactions des gens,
oui, oui.
Et y compris les réactions des hommes dans la salle. Parfois assez agressives, du genre « oui mais quand même, elle pourrait faire des gamins !»
Ah bah si elles font tout ça, comment on va se reproduire
voilà,
là
exactement.
Hein
Navi
non, mais bon.
Mais oui, oui, mais les discussions après, c'est... Enfin, ce qui est chouette aussi, moi je trouve, après le film, c'est que... Vu que le film, voilà, elles disent des choses très personnelles, j'ai l'impression que ça facilite après la prise de parole aussi, et que très vite, enfin, les gens parlent assez facilement. Alors, il y a en général un peu plus de femmes que d'hommes qui viennent voir ce film, mais voilà, ça provoque aussi, enfin, ça entraîne de nouvelles histoires. Enfin, moi, c'est un film que j'ai trouvé chouette à faire parce qu'il y avait leurs histoires, mais en même temps, ramener l'histoire de leur mère, l'histoire d'une voisine, l'histoire d'une autre femme. Enfin, c'est très peuplé. Enfin, pour le coup, nous sommes nombreuses. Je trouve que ça irait bien aussi pour ça. Enfin, je trouve qu'il y a cette idée-là. Ouais, enfin, on est plein, et ça veut aussi dire on est plein. On a plein de destins possibles aussi en nous. Enfin, et que souvent, la salle, elle reprend ça. Et que, voilà, c'est encore de nouvelles histoires. Et il se trouve que souvent, il y a aussi des femmes sans enfants qui viennent voir ce film, et on sent une envie aussi de parler, de témoigner, de dire bah voilà, je suis comme ça et ça va bien. Enfin.
Oui, parce qu'il y a quand même une pression sociale qu'on sent assez forte,
oui.
Peut-être parce qu'elles sont de la première génération,
ouais.
Des femmes qui ont pu choisir de ne pas en avoir d'enfants, mais quand même, la plupart disent qu'il y a une justification à donner. Quoi.
Oui. Et encore, enfin, pas trop accentué là-dessus, mais c'est sûr, c'est pas encore tellement. C'était bien vu, et en tout cas ça provoque un peu d'interrogation, quoi, entre est-ce qu'elle a pas pu, elle aurait pas voulu, mais pourquoi n'aurait-elle pas voulu, enfin voilà, c'est vrai que ce genre de questions arrive vite, et que peut-être là, enfin ce qui est bien, c'est qu'on a pu prendre le temps et qu'elles ont pu en parler assez tranquillement aussi, enfin de cet état là
donc l'embarras du choix d'Autriche, 21h, c'est ça, samedi?
C'est ça, samedi.
21h samedi. Venez nombreuses.
En présence de moi-même.
Vous serez nombreuses. Pour continuer sur le cinéma, Ben.
Tiens, je voulais juste dire un truc, rajouter un truc sur le film d'Isabelle, en fait, tant que j'y suis. Ce qui est marrant, en fait, c'est que du coup, tu dis le côté. Je me permets.
Vas-y.
Le fait de se rassembler, de continuer le truc d'être plusieurs du groupe. Et il y a quand même aussi un truc, je pense, du symbole qui est dans le film et qui est aussi perpétué par le film, parce qu'elles ont toutes, à un moment ou à un autre, un point d'accroche symbolique qui est derrière, qu'elles ont construit ou pas. Enfin, je pense à Mika, enfin, qui est quelqu'un de, enfin, tu l'as filmé dans sa bibliothèque, quoi. C'est pas non plus pour rien, qui est très cultivé, etc. Qui lit beaucoup, qui a des références à des poétesses, etc. Même j'ai oublié qui c'est Carole qui sort son voilà qui a la boîte quand même, la boîte en cœur, etc. Il y a ces symboles forts, elles ont toutes des symboles quand même qu'elles sont en train de construire, et des modes de
la photo
ouais,
où on
voilà.
pourrait la prendre pour une femme,
voilà, enfin voilà, elles ont toutes des enfin qui en plus que tu montres à côté des entretiens ou pendant, enfin en général c'est un peu à côté. Et du coup c'est quand même, il y a une grosse histoire d'avoir de créer des symboles et des représentations autour de cela pour motiver, je sais pas si c'est pour motiver les choix, mais en tout cas pour alimenter une réflexion. Et
bah, peut-être
coup,
justement aussi parce qu'on manque de représentation.
Ouais, voilà, ouais.
Justement, c'est pour ça que le film d'Isabelle aussi est un peu unique ou original dans ce cadre-là.
Ouais,
c'est que effectivement on manque de représentation de choses-là. Donc elles, peut-être à un certain moment de leur vie, si elles ont voulu assumer ce choix, il a fallu
elles étaient obligées de créer les symboliques.
Ouais,
enfin,
ouais,
tous les courants, quoi que ce soit, ce qu'on en retient beaucoup, c'est la représentation symbolique qui est exercée derrière. Quoi.
Ouais.
Et je vois pas. Enfin, il y a une grande d'exercice du cinéma, c'est quand même de créer des symboles d'organisation ou de désorganisation sociale, quoi. Donc c'est marrant que du coup il y a un truc de gens quand même qui est tissé autour du film, qu'elles sont appropriées des groupes ou pas, etc. Et que du coup c'est retransmis à travers le film. Mais il y a aussi vraiment une génération symbolique qu'elles se sont fait, que tu t'es appropriée, que tu recrées à travers le film. Voilà. C'était plutôt élogieux,
c'est
comme remarque.
Merci. Et après, tu vas nous parler de Greenaway.
Ouais, ah c'est ouais, pourri Greenaway. Hein.
C'est un cinéaste que j'aime beaucoup.
Ah ouais,
ouais.
Ah ouais, qu'est-ce que t'as vu?
Pas grand-chose en fait, puisque ça m'a vite agacé.
Ah ouais,
ouais. J'ai dû en voir
ah bah, on part... Moi, j'ai vu 8 femmes et demie, c'est vrai que c'est très très agaçant.
Je sais pas, ça me.
Mais ouais, non, mais toi, bon... tu voulais parler de ces documentaires musicaux, c'est ça? Sur la musique.
Oui, c'est ouais, ça.
Qui mais apparemment, bon, mais... sont très bien.
Alors justement, je vais t'encore partager. En fait, il, donc, il y a un magnifique coffret DVD de Peter Greenaway qui est sorti au film du Paradoxe, si je suis pas en train de dire de conneries. En fait, qui sont 4 films qu'il avait fait pour Channel 4 en 84, sur, autour de 4 compositeurs américains, contemporains. Donc on retrouve Meredith Monk, Robert Ashley, Philip Glass et John Cage. Donc les plus connus sont certainement Philip Glass et John Cage, entre voilà. Meredith Monk est pas très connue, alors qu'elle mériterait largement en fait. Mais il y a des, ils ont tous un peu des parcours un peu différents et les films essayent de chacun de ces films en fait sont des films pas des moyens métrages, on dirait une cinquantaine de minutes, et qu'essayent à chaque fois de trouver une forme qui correspond un peu à ce que au à la composition et aux travaux de chaque compositeur. Donc celui de Meredith Monk, en fait Meredith Monk est compositrice et fait beaucoup de travaux notamment sur la voix, autour de composition vocale, mais elle est également cinéaste, vidéaste, chorégraphe, danseuse, musicienne, écrivaine, poétesse, metteuse en scène, je crois qu'elle je
dois, pas.
Peintre, nullipa, je sais pas, je sais pas. On n'en parle pas trop de sa vie, enfin bref. Et voilà, donc c'est en fait ce qui est très chouette, c'est que du coup il y a une belle rencontre avec Greenaway, parce que du coup elle a mélange elle-même ses différentes pratiques, la musique, la danse, le cinéma, etc. Elle mélange elle-même. Et du coup lui il essaye de mélanger aussi là-dedans, donc il rebidouille des trucs de sa musique, des entretiens d'elle avec des extraits de des vidéos qu'elle a faites, etc. etc. Celui sur Philip Glass est très posé. Il est tourné autour d'une captation de sa d'une pièce qu'il a jouée à New York en 82. Donc une pièce de musique répétitive, on va dire minimaliste, on sait plus trop à cette époque-là si c'était encore répétitif ou minimaliste, voilà, enfin bon, ça c'est...
Sériel.
On disait pas trop en fait, sériel. On disait pas trop sériel en fait, c'était très, pour ah ouais. Les termes, ça, non, c'est répétitif ou minimaliste, en termes de courant sériel, ça serait plus une méthode de composition. D'accord. Qu'un courant artistique. Et donc là, à ce moment-là, voilà, autour de Philip Glass, c'est entrecoupé d'entretiens, c'est peut-être, voilà, c'est assez chouette pour qui ne connaît pas Philip Glass, on apprend pas mal de choses, le film n'a pas tant de valeur que ça. Par contre, il y a un film merveilleux sur John Cage, qu'il faut absolument voir, qui est vraiment un truc wonderful. Si vous aimez John Cage, je suis sûr que vous adorez tout John Cage, ici.
Wow.
John.
Je passe un extrait?
Ouais, s'il te plaît.
Et alors?
Ready for it.
Excusez-moi,
ouais. Et après, j'ai un coup d'entendait quand même le petit
Ready for it. It.
C'était un petit requiem anarchiste qui a été repris par John Cage, qui a été repris par d'autres gens d'ailleurs, ce truc-là. Notamment par Four Walls, je crois.
Oui, Anarchist Anthem,
c'est ça. Et je crois que c'est le même... même truc qu'ils ont extrait. Et en fait, voilà, bon, j'ai juste deux mots, on va très vite, parce qu'on est en retard, et puis que Thomas Dupuis veut pas que je parle vite, veut pas que je parle longtemps. Le film sur John Cage est très très chouette, parce que c'est basé autour d'une soirée qu'ils ont donnée pour le 70e anniversaire de John Cage, en 83, encore, et où ils jouaient plus d'une vingtaine de ses pièces, donc pour toutes sortes de choses, un piano préparé, ça va du piano préparé au transistor, aux instruments à la batterie de cuisine, etc., des je sais pas combien de chants, dans un énorme hangar aménagé pour l'occasion, mis en scène de façon incroyable, filmé de façon majestueuse. Je suis très élogieux. Et entrecoupé d'entretiens
mémorables.
Et aussi alimenté par des bandes son de réflexion de John Cage.
De ma boule.
Vous êtes vraiment pas gentil. Et c'est pas de la parano là quand même. Et voilà, avec des je sais plus ce que je voulais dire, avec donc des réflexions de John Cage sur ce qu'il est en train de, sur ce qu'il fait, sur sa place de l'art, sur sa place de la culture, de politique, etc. Et en fait, ce qui est très très beau dans ce film et que Greenaway a réussi à faire de façon assez magistrale, c'est qu'il arrive à essayer de disséquer un peu comment ce qu'on peut se construire la musique de John Cage, les motivations de sa musique, ce qui est quand même très très dur à essayer d'exprimer. Aussi bien les motivations, les désirs qu'il veut, comment il les transmet, quelle place il veut donner un peu dans l'histoire, le futur qu'il a, et comment cette musique-là en fait a une teneur politique absolument insondable et très très peu reconnue, puisqu'il a beaucoup d'organisations collectives, il organise tout ça autour de la politique, et toutes ses pièces sont vraiment très 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 politiques en fait. Et que ce n'est pas uniquement bruitiste. Et donc film de Greenaway est très bien vers ça. Voilà.
Très bien. Donc c'est un DVD, un coffret DVD.
Tout à fait.
D'accord. Excuse-moi, je me dépêche. Dans 30 secondes, c'est les infos. Ouais.
On remettra la chanson après.
Voilà.
Ouais.
Bon, récapitule.
On récapitule.
Mais c'est bon, on reste ici en fait.
Bah je sais pas. Ouais. Apparemment, il y a personne de chez Indépendance qui est là, mais ils vont peut-être arriver par les infos.
Yann pourra parler un petit peu du journal.
Allez, d'accord.
Allez, d'accord.
Si Indépendance n'arrive pas.
Puis on peut passer tout l'album.
Allez, c'est bien. C'est les infos. À bientôt.
À bientôt.
À tout de suite.
Et si ce message n'est pas diffusé au dernier journal,
Bonsoir, bonsoir à tous. Il n'en finit pas de grimper et cela en devient inquiétant. Le baril de pétrole a dépassé pour la première fois 132 dollars à New York et 131 dollars à Londres. Pendant ce temps, en France, les marins pêcheurs négocient avec leur ministre Michel Barnier pour obtenir des aides. Ils réclament un prix du gazole ne dépassant pas 40 centimes le litre. Deux Suédois ont été arrêtés aujourd'hui, soupçonnés d'avoir préparé des actes de sabotage dans une centrale nucléaire du sud de la Suède. Les deux hommes sont des employés temporaires de cette centrale. L'un des deux suspects a été retrouvé avec des sacs contenant des traces d'un explosif très puissant. José Luis Rodríguez Zapatero a salué tout à l'heure le coup très dur porté à la direction de l'ETA. Il évoquait bien sûr le gros coup de filet effectué hier soir à Bordeaux, au cours duquel quatre activistes de l'organisation séparatiste basque, dont le numéro 1 présumé, ont été arrêtés. Le chef du gouvernement espagnol a remercié son homologue français et le président Nicolas Sarkozy. Une preuve de plus du réchauffement climatique, les chutes de neige dans les Alpes suisses ont brutalement baissé dans les années 80 et n'ont jamais retrouvé leur niveau antérieur depuis. C'est le résultat d'une étude de chercheurs suisses publiée dans l'hebdomadaire anglais New Scientist aujourd'hui. Certains hivers, la quantité de neige a même été inférieure de 60% au volume constaté au début des années 80. En Somalie, le contact a été établi avec les ravisseurs des deux Italiens enlevés ce matin au sud de Mogadiscio. Ils vont bien, selon l'ONG pour laquelle il travaille. Elle affirme qu'ils n'ont pas subi de violence. Tennis, enfin, Julien Bento a rejoint aujourd'hui Marc Gicquel et Gilles Simon en quart de finale du tournoi de Casablanca en battant l'Uruguayen Pablo Cuevas 6-4-6-4. Julien Bento affrontera Oscar Hernandez, l'Espagnol qui a corrigé le Français tête de série numéro 2, Gaël Monfils, en 2-7, 6-3, 6-2.
Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
C'était Georges Moustaki sans la nommer.
Mais de quoi ouais. parle-t-il en vrai
ouais. De quoi parle-t-il à la révolution permanente.
Donc, on est là pour ça. Fait du rab.
Ouais, on fait un peu de rab, allez.
Sur Radio Pulsar, Indépendance n'est pas encore là, alors on finit de parler de nos trucs. Non, ma foi. Et les gens, ils viennent pas, ils nous préviennent.
On occupe l'antenne.
On occupe l'antenne, on fait du blabla. Cher auditeur de Radio Pulsar, tu as droit ce soir à du bonus. Et pourtant, je suis malade. Comme ça, les prochains complètement malades. Les prochains qui viendront dans ce studio auront droit à des microbes. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent pas. Bon, ça m'empêchera pas de parler du journal de Jules Renard. Oui, oui. Aïe, j'ai mal à la gorge. Lu par Fred. Fred, vous savez, l'auteur de bande dessinée qui a fait Philémon. Et donc, le titre de ce livre, c'est donc Le journal de Jules Renard, lu par Fred. Mais en fait, c'est pas vrai, il est pas lu par Fred, il est dessiné par Fred. Enfin, il est lu et donc redessiné par Fred. Qui a donc aimé et lu le journal de Jules Renard, mais comme c'est un dessinateur, bah, il n'a pas pu s'empêcher de dessiner. Et comme il est malin,
et
ben,
bien.
T'as vu ça, c'est intelligent. Non mais fallait le faire quand même, parce que déjà Jules Renard était vraiment un sale bonhomme, enfin, il n'a pas une réputation d'avoir été tendre. Dans son journal, il n'est pas tendre non plus. Dans la, on va dire, l'adaptation, enfin la création graphique qu'en fait Fred, il a gommé la partie attaque sur les noms propres, parce qu'il balançait quand même pas mal à droite à gauche sur tous les écrivains qui l'entouraient. Et pour se concentrer...
Genre il faisait des jeux de mots et tout ?
Non, je crois que c'est pas des jeux de mots, c'est juste qu'il critiquait tout, quoi.
Enfin, ah oui, d'accord.
Pas grand-chose qu'il y avait grâce à ses yeux. Et il avait, je crois, un seul caractère. Mais bon, il a fait quand même de sacrés bons romans, dont Poil de carotte et Gornifleur, que pour ma part, j'adore. Et donc, ce journal. J'avoue que je suis tombée sur ce livre qui a été édité en 1988 aux éditions Flammarion dans la collection Romans BD, qui existe
très longtemps.
Ça m'étonnerait. Et donc, c'était assez étonnant parce qu'en 1988, la bande dessinée indépendante était peut-être assez balbutiement. On imaginait assez peu un truc.
C'est pas à peu près. Moi, il me semblait que j'associais ça, pourquoi pas, à Mouse de Spiegelman, en fait, qui était sorti chez Flammarion aussi.
Je crois que c'était plus tard quand même.
C'était plus tard. Ouais, bon. pourquoi pas.
Donc voilà,
j'ai des tentatives.
En noir et blanc, enfin en l'occurrence en marron et sur papier crème. et donc c'est des discussions de Jules Renard qui discute, devinez avec quelle bestiole ? Un corbeau, mais oui, le corbeau de Renard.
Oh, ah ouais.
Subtil ce Fred. Et bien c'est assez étonnant parce que bah, on se balade dans les pensées de Jules Renard, c'est-à-dire qu'il passe son temps à marcher dans la campagne. Donc c'est un décor, quand on connaît Philémon, on connaît les campagnes, l'espèce de vaste étendue comme ça de Fred. Sauf que là c'est juste des champs et puis des gens qu'il croise parfois, qui sont en général assez, qui donnent pas tellement envie de s'intéresser à l'humanité, mais malgré tout, ce qu'en dit Jules Renard est assez piquant et assez d'esprit pour que bah, justement pour qu'on s'attache un petit peu en tout cas à sa pensée à lui. Je vais peut-être en lire quelques extraits. Comme ça, on comprendra bien le genre d'ambiance. Donc c'est le corbeau qui parle d'abord. Quel âge avez-vous, monsieur Renard ? Bah, il y a des gens qui n'avouent leur âge que pour être mieux placés dans les banquets. Et puis, il y a des gens qui meurent de vieillesse à 40 ans, leur âme ayant pris du ventre. Est-ce pour ne pas prendre de ventre que vous marchez autant, monsieur Renard ? Moi ? Je marche comme une montre, corbeau, mais je m'arrête souvent. Vos mots feront fortune, monsieur Renard. Eux, oui, moi, pas. Mais un bon mot vaut mieux qu'un mauvais livre. On rencontre des auteurs qui disent ne pas être assez mûrs. Ils attendent sans doute de pourrir. Ou peut-être d'avoir du talent, monsieur Renard. Bah, quand on a du talent, corbeau, on vous imite. Si l'on vous imite, vous devenez à la mode. Si vous devenez à la mode, vous passez de mode. Donc, il vaut mieux ne pas avoir de talent. Par contre, j'ai connu quelqu'un qui aurait pu avoir beaucoup d'esprit. Mais il était si malpropre que son esprit ne pouvait pas lui arriver au bout des ongles, à cause du noir. Il ne s'était pas lavé les mains depuis Ponce Pilate. Voilà, petit extrait en image du journal de Jules Renard, lu et dessiné par Fred. Donc un très beau livre qui est étonnamment encore disponible, bien qu'il ait été publié il y a quelques
mais
temps.
Mais ça n'existe plus, ça. Cette collection, roman.
La collection n'existe plus, mais le livre est encore disponible.
Très bien.
Voilà. Oui.
Il y a des gens qui discutent derrière nous.
Il y a des gens qui discutent derrière nous. On récapitule ?
Oui, on récapitule.
Alors, tu viens de parler de ?
Je viens de parler du journal de Jules Renard, lu par Fred, un roman BD publié chez Flammarion.
Et tu conseillais également de Jules Renard ?
Les Cornifleurs, qui est un roman assez peu connu, mais qui est très bien.
Très bien.
Moi, je vous ai parlé de La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, publiée aux éditions Phébus. Et j'ai aussi évoqué la programmation du Dietrich de ce week-end. Vendredi soir, nous sommes nombreuses. Et samedi après-midi et soir,
maternité.
Des documentaires autour de la maternité.
Très bien. Et donc, on a parlé de Roche Voisine 2. Vous l'avez dit peut-être déjà ?
Non, on a parlé de Roche Voisine 2. On a parlé des DVD de Peter Greenaway.
Ouais, le coffret, donc paru, tu sais, chez qui ?
Chez les Films du Paradoxe.
D'accord.
Je suis pas...
Et puis ?
Nous avons écouté...
C'était pas mal.
Nous avons écouté Jeanne Moreau. Nous avons écouté Georges Moustaki. Nous avons écouté...
La BO de La Vie Aquatique.
Oh, ça, vous pouvez même pas imaginer comment il est heureux.
Et nous allons finir.
Et on va finir.
C'était donc On est là pour ça, avec un peu de rame et de débordement horaire.
L'émission la plus longue de l'histoire de On est là pour ça.
Sur Radio Pulsar. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. vivre jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente.
Pour les marins révoltés du Potemkin, les soldats de Crown, pour les soviets pacifistes écrasés à la Poutine, Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les brigades internationales au secours de la République espagnole, pour les grévistes de 1936, Manouchian, ses 23 camarades, les FTP Moy, pour les résistants, les manifestants piétinés à Charonne et ceux jetés à la Seine le 17 octobre 1961, pour les guerres de libération des peuples colonisés, le Che et ses guerrilleros, les étudiants, les 9 millions de grévistes de 1968 pour Victor Jara, pour les travailleurs en lutte de l'IP, Manu France, Boulogne-Billancourt, les dockers, pour les luttes des femmes algériennes et afghanes, les indiens du Chiapas et le sous-commandant Marcos, les ouvrières de l'Épée, de Moulinex, les chantiers navals du Havre, de la Ciotat, les cheminots, les étudiants indonésiens, la lutte des peuples palestiniens et kurdes, pour les sans-papiers, sans logement, sans travail, sans droit, sans égalité, liberté, fraternité, pour les enfants qui n'ont pas une vie d'enfant. Pour tous ceux qui pensent que les choses ne restent pas ce qu'elles sont et que les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs.
Voilà, c'était la même chanson de Georges Moustaki, sans la nommer, interprétée cette fois-ci par la compagnie Jolimôme. Bonne soirée et à la semaine prochaine.